France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19 en ce dry January, cette opération qui nous invite à ne pas boire pendant un mois. Voici un témoignage instructif sur notre relation à l'alcool et c'est une femme qui prend la parole. Les femmes et l'alcool, c'est un sujet dont on parle peu et qui est encore largement tabou. Bonjour Stéphanie Braquehay.
Bonjour.
Vous avez été journaliste et aujourd'hui vous publiez un livre intitulé « Jour zéro » dans lequel vous racontez comment et pourquoi vous avez arrêté l'alcool. C'est écrit comme un journal de bord, au jour le jour. À quel moment vous vous êtes rendu compte que l'alcool prenait trop de place dans votre vie ?
Alors, ça ne s'est pas passé d'un seul coup, ça a été graduel. Je me posais pas mal de questions. Depuis ces dernières années d'ailleurs, sur est-ce que je bois trop ? Ma consommation n'était pas du tout quotidienne, je pouvais passer plusieurs semaines sans boire, mais quand je buvais dans le cadre de fêtes, toujours avec les autres, il m'arrivait de pousser ma consommation un peu trop loin, pas même un peu d'ailleurs. Je pouvais avoir des trous noirs, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de la gueule de bois, comme des millions de personnes. Et il y a un moment où, si vous voulez, les inconvénients ont dépassé les avantages. Donc c'était plus un rapport déficitaire dans cet équilibre et où je me suis dit mais est-ce que le problème vient de moi ou est-ce que le problème vient de l'alcool ? Et finalement la démarche de ce livre, c'est pas du tout d'accuser l'alcool, mais c'est de remettre un petit peu les choses en place, d'analyser ce que l'alcool fait au cerveau et de montrer que finalement cette recherche du plaisir en buvant de l'alcool, elle est intégrée dans le cerveau. Le cerveau est fait pour chercher du plaisir et éviter la douleur. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et finalement, de comprendre ça, ça libère aussi.
Et on le voit d'ailleurs dans votre livre, que vous avez fait plein de recherches dans ce domaine des neurosciences, pour comprendre ce processus psychologique d'addiction, pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Je voudrais juste revenir à une définition, une non-définition plutôt que vous évoquez dans votre livre. Vous dites que vous n'étiez pas alcoolique, que vous aviez certes une consommation problématique, mais que vous n'étiez pas alcoolique. Pourquoi ?
Alors effectivement, j'avais une consommation à risque. L'alcoolisme, d'abord, il faut savoir que c'est un mot très vague, que même dans les milieux de prévention de l'addiction, c'est pas forcément un terme qui va de soi. Et l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est vraiment ça la définition, les conséquences sont pathologiques. Moi, j'étais pas malade, j'avais pas de symptômes et j'ai pas eu besoin d'aller voir un médecin pour arrêter l'alcool. Et pour moi, c'est important, les mots sont importants parce qu'ils permettent ou non de s'identifier. Du coup, mon cas, en fait, est similaire à celui de millions de personnes qui ne savent pas toujours, finalement, contrôler leur consommation. Donc, vraiment, la question que je pose dans mon livre, c'est où est la frontière entre bien boire, mal boire, trop boire ? C'est quoi cette zone grise de gros buveurs qu'on appelle des fêtards et comment on va les appeler ?
Vous dites qu'il y a un problème de définition, en effet, puisque boire une bouteille seule chez soi dans sa cuisine, c'est être alcoolique. En revanche, en boire deux dans une soirée, c'est être une bonne vivante. C'est comme ça que vous voyiez à l'époque, comme une bonne vivante ? Vous aviez l'alcool mondain ?
Oui, alors l'alcool mondain, effectivement, bonne vivante, mais avec ses excès qui, le lendemain, me faisait me réveiller avec une sensation désagréable. Et encore une fois, en explorant les neurosciences, la gueule de bois, cette impression de culpabilité, cette honte un peu sans objet, elle a une explication chimique. Et ça aussi, ça libère de comprendre les mécanismes physiologiques qui donnent lieu à des comportements, à des sensations, à des émotions. Parce que finalement, on voit que c'est pas de notre faute, en gros, que c'est ce qui se passe. Et encore une fois, j'ai plein d'amis qui boivent autant, sinon plus que moi je buvais, et qui estiment que pour eux, leur trou noir ou leur gueule de bois ne sont pas des raisons suffisantes pour arrêter. Pour moi, ça l'a été. Voilà, c'est une décision personnelle.
Vous avez, vous avez identifié ce qui vous gênait, notamment ces gueules de bois. Vous avez effectivement une démarche, je le disais, très rationnelle. Vous avez fait la liste, en gros, des avantages et des inconvénients. Et vous le dites, il y avait des avantages quand même à boire de l'alcool. C'est que c'était un pansement miraculeux. Qu'est-ce que ça veut dire, un pansement miraculeux ?
Alors, les avantages, c'est effectivement que ça fait diminuer la timidité quand on boit. Grâce à l'effet inhibiteur, encore une fois, de l'alcool, on a plus de facilité à se lier avec les autres. On peut, par exemple, écouter une conversation qui n'a aucun intérêt pendant plus d'une demi-heure en continuant à boire parce que finalement, nos limites sont repoussées. Donc, c'est vrai qu'on devient en quelque sorte une autre personne avec l'alcool. Et cette envie d'arrêter, qui a d'ailleurs été motivée par un arrêt un mois précédemment, donc plusieurs mois auparavant, j'avais arrêté pendant un mois, sans vraiment d'ailleurs forcément faire le lien avec le janvier sec, Dry January, mais qui m'avait fait découvrir la personne que je pouvais être sans cette béquille de l'alcool. Donc en fait, quand on ne boit pas, on est obligé de ne pas être timide et on est obligé de se faire confiance. Donc c'est un petit peu cette négociation qu'on fait avec soi-même.
Vous dites cette personne que je pouvais être, ça vous a complètement changé le fait d'arrêter l'alcool? Vous êtes quelqu'un d'autre aujourd'hui?
Alors, je dirais pas que je suis quelqu'un d'autre. Je reste avec mes petites névroses quotidiennes comme tout le monde. Hein. Mais je pense que mon esprit est relativement moins agité, que j'ai plus confiance en moi parce que j'ai connu cette expérience de n'avoir pas d'autre choix que de me faire confiance. Et du coup, l'écriture de ce livre, ça a aussi engagé cette réflexion sur la place énorme que prenait l'alcool dans nos vies, dans nos relations sociales, aussi par rapport aux réactions des autres. Quand j'annonçais que je ne buvais plus, il y avait souvent cet étonnement. Les gens étaient déconcertés, comme si j'offrais une sorte de miroir, sans le vouloir d'ailleurs, hein, parce que vraiment, loin de moi l'idée de faire la leçon à quiconque d'ailleurs. Mais c'est ce miroir sur si elle arrête alors que voilà, on pensait pas qu'elle avait un problème. Du coup, est-ce que moi ça veut dire que j'en ai un? Donc c'est cet effet miroir sur lequel je n'ai pas de contrôle.
Et c'est totalement différent, par exemple, avec la cigarette. Quand on arrête la cigarette, il y a toujours plein de gens qui viennent nous dire « bravo, c'est super, t'as de la volonté et tout ». Pour l'alcool, personne n'est venu vous dire « bravo, c'est super ».
Non, il y a une sorte de gêne. Et effectivement, vous le dites, moi je suis une ancienne fumeuse, mais on ne m'appelle pas tabacolique. Il y a vraiment encore cette stigmatisation par rapport à l'alcool.
Vous dites « les abstinences sont louches, ma sobriété gênait ». Ça a changé vos relations sociales, le fait de ne plus boire d'alcool?
Alors ça a changé mes relations sociales dans le sens où je ne discute plus à raconter n'importe quoi jusqu'à 8h du matin en rentrant la tête à l'envers, je me couche plus tôt. Mais et oui, ça a quand même changé mes relations sociales. J'ai un ami qui revenait là, qui était de passage à Nairobi, qui me disait...
Vous vivez au Kenya, je ne l'ai pas précisé, mais vous vivez au Kenya.
Oui, je vis au Kenya. Qui me dit, t'es toujours aussi folle, mais c'est comme si t'étais plus calme, plus ancrée. Voilà, donc ça m'a plutôt fait plaisir.
Et je précise quand même qu'il n'y a aucun militantisme dans votre livre. Vous ne prônez absolument pas l'abstinence. Hein. Vous vous interrogez seulement sur notre relation à l'alcool. Et à ce propos, est-ce que la dépendance à l'alcool, elle est différente quand on est une femme?
Je pense que du point de vue physiologique, elle n'est pas différente. C'est-à-dire que, et d'ailleurs qu'elle a souvent les mêmes ressorts qui est de chercher plus d'estime de soi, etc. Mais en revanche, je pense que les conséquences sont différentes. Moi, en tant que femme, c'est vrai que l'alcool m'a mis en danger parfois, du point de vue de ma sécurité, dans le rapport à la séduction, dans le rapport au corps. Il y a toujours aussi une manière de vouloir... Il y avait aussi un petit peu de militantisme, de vouloir être en compétition avec les hommes, montrer que je pouvais boire comme un mec et séduire aussi comme un mec. Voilà, être moi, ce qu'on appelle un don juan pour un homme, mais ce qu'on appelle différemment pour une femme. Donc effectivement, l'alcool permettait ça.
Et pour prolonger, cette discussion, je conseille vivement à nos auditeurs de lire votre livre qui s'intitule « Jour zéro » qui est paru aux éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup Stéphanie Braquet, vous étiez l'invitée du 5-7.
France Inter.